2 Chroniques, chapitre 36, les versets 14 à 15, et ensuite les versets 19 à 23. 2 Chroniques, chapitre 36, les versets 14 et 15, et ensuite les versets 19 à 23. Au nom de Jésus. De même, les chefs des prêtres et du peuple, tous plus infidèles les uns que les autres envers Dieu, se livrèrent aux pratiques abominables des nations païennes et profanaient le temple que le Seigneur s'était consacré à Jérusalem. Le Seigneur, Dieu de leurs ancêtres, plein d'amour envers son peuple et son sanctuaire, envoya à maintes reprises des messagers leur parler de sa part. 19. Les Babyloniens incendièrent le temple de Dieu, démolirent la muraille de Jérusalem, mirent le feu au palais et détruisirent tous les objets précieux de la ville. Le roi déporta à Babylone ceux qui avaient survécu au massacre. Ils devinrent ses esclaves, puis ceux de ses descendants, jusqu'à l'avènement de l'Empire perse. Ainsi se réalisa la parole que le Seigneur avait prononcée par la bouche du prophète Jérémie. Le pays sera abandonné pendant 70 ans, jusqu'à ce que soit achevé son temps de repos, pour compenser les périodes de repos qui n'ont pas été observées. Durant la première année du règne de Cyrus, empereur de Perse, le Seigneur décida de réaliser la parole qu'il avait prononcée par la bouche du prophète Jérémie. Il fit naître dans l'esprit de Cyrus l'idée de publier dans tout son empire, de vive voix et par écrit, le texte suivant. Voici ce que proclame Cyrus, empereur de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, a soumis à mon autorité tous les royaumes de la terre. Il m'a chargé de lui reconstruire un temple à Jérusalem, dans le pays de Juda. Tous ceux d'entre vous qui appartiennent à son peuple sont invités à regagner Jérusalem, que le Seigneur leur Dieu soit avec eux. Amen. Dimanche passé, nous avons vu un Jésus en colère, fou furieux, qui a renversé les tables sur les parvis du temple. Le temps était dur et les mots très violents. C'est assez rare de voir un Jésus violent. C'était tellement violent qu'on peut dire qu'avec ce geste, Jésus avait signé sa mort ce jour-là. Il est vrai que Jésus est mort pour nous parce qu'il nous aime, c'est ce qu'on nous dit. Et ça, c'est une lecture sotériologique, dogmatique, que nous avons appris au catéchisme, sur l'événement de la croix. Mais sur le plan historique, sur le plan événementiel, Jésus était victime d'une jalousie et d'une haine de la part des dirigeants du temple. Ce geste que Jésus a commis, renverser la table, lui a coûté très cher. Et donc, ce qui a été dit dans l'évangile du dimanche passé était la dernière goutte qui a fait déborder la vase. Le vase, merci. Et j'aimerais revenir sur une phrase du verset 17. La passion jalouse de ta maison. La passion jalouse de ta maison. C'était le texte de la semaine passée. Cette passion jalouse est peinte par cette colère et la violence des gestes de Jésus. Et pour certains, ce que Jésus avait fait serait qualifié quelqu'un d'hystérique. Mais il faut bien lire ce qui est écrit dans ce verset. Il est dit « Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit ». Une fois que l'acte est fait, les disciples se sont souvenus plus tard ce que ça veut dire la passion jalouse de la maison de Dieu. De ce fait, même ce geste de Jésus qui a renversé les tables ne doit pas être réduit comme étant une simple réaction émotive. Ce n'est que malheureusement une répétition d'une mauvaise habitude des enfants d'Israël, et c'est ce qu'on voit ici dans le texte. Ce texte nous montre une inversion totale dans le respect de la sainteté du temple entre les Israélites et ceux qui sont considérés comme étant les païens. Le texte pointe du doigt, sans faire un détour, que les prêtres ainsi que la population israélite profanaient le temple. Et le texte est très clair. Ils imitaient les abominations des païens. Non seulement ils profanaient, mais ils copiaient même les abominations de ses voisins. Est-ce que vous imaginez l'ampleur de cette phrase ? Déjà, les règles lévitiques sur la prêtrise et l'accès au temple est très stricte, contraignante. Exemple, je vais vous donner des exemples. Les préparatifs à faire avant d'entrer dans le sanctuaire, il fallait passer par les rites de purification. Le prêtre doit prendre un bain, ne pas avoir de relations sexuelles avec son épouse la veille d'entrer dans le sanctuaire. Les rites qu'il faut suivre, et même il n'était pas encore sûr qu'il va avoir la vie sauve une fois qu'il entre dans le lieu très saint. Vous vous rappelez l'histoire du bon samaritain ? Pourquoi les lévites et les prêtres ne faisaient que passer face à ce blessé ? On dit qu'ils n'aiment pas leurs voisins ou qu'ils n'ont pas l'amour fraternel. Oui, peut-être, mais la loi lévitique prescrivait qu'un prêtre qui va entrer dans le temple n'a pas le droit d'être en contact avec une personne morte. Sinon, il sera souillé. Ou être en contact avec une personne impure. Et une personne impure, dans la loi lévitique, c'est une personne qui a des liquides qui sortent de son corps. Ça peut être du sang ou autre chose. Et cela le rendra impur. Et c'est pour cette raison, par exemple, que les femmes qui ont eu leur menstruation dans l'Ancien Testament ne pouvaient pas entrer dans le temple. Voilà la loi lévitique de l'époque. Or, ici, l'auteur met encore un accent et rajoute une couche en disant que les prêtres qui connaissaient ces lois commettent vraiment des actes pire que cela, abominable, contraire à la loi de la pureté, c'est-à-dire un acte délibéré ayant un sens de rébellion contre l'Éternel. Et quand la Bible parle d'abomination, ça dépasse même ce que nous pensons, imaginons, ça dépasse le syncrétisme. La prêtrise et le temple était détourné pour autre chose. On introduisait des pratiques païennes. Les ustensiles du temple, par exemple, tout ce qui était utilisé dans le temple, ont été profanés. Comme faisait le roi de Babylone qui buvait leur vin lors de leur beuverie dans cette coupe qui a été destinée pour l'Éternel. Et rappelez-vous, il y avait le doigt qui écrivait sur le mur. Suite à cela, mene mene tekela uparesi. Alors, deux choses, moi personnellement, qui m'ont frappé dans cette histoire. Premièrement, c'est normal que l'ennemi ferait cela, l'ennemi de Dieu, puisque ces ustensiles du temple font partie des butins de guerre, comme on dit, butins de combat. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec ce qu'ils ont eu, puisqu'ils ont leur propre Dieu. Mais ce peuple de Dieu qui est un peuple mis à part pour être un royaume de prêtres, ils osent profaner le temple de leur propre Dieu. Profaner le temple des autres dieux, c'est presque normal. Mais profaner le temple de son Dieu, c'est là que l'auteur appelle au scandale ici. Et rappelez-vous aussi avec l'histoire d'Akan, qui avait caché chez lui les choses interdites que Josué avait prohibées lors de la prise de Jéricho. Or, c'était une pratique courante. De l'époque, les vainqueurs pouvaient se servir de tout ce qu'ils veulent, des choses qui appartiennent aux vaincus. Mais Dieu avait formellement interdit à son peuple, car c'est un peuple mis à part. Yahvé martèle cela dans les livres des prophètes. « Tu seras mon peuple et je serai ton Dieu. » Deuxième chose qui m'a frappé, il est frappant de voir qu'à cause de l'agissement des Israélites, que le temple fut brûlé et détruit. Pourtant, c'est un païen ici qui va reconstruire le temple. Et vous remarquez ce contraste ? Vous avez tout fait pour que le temple soit souillé, impur, brûlé. Or, ici, c'est un païen qui va reconstruire le temple. Vous ne pensez même pas reconstruire le temple. Vous étiez tous occupés à votre petite vie misérable. Et c'est pour cela que Dieu avait envoyé le prophète Haggai. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Tout le monde s'occupait de son propre affaire. Alors, quand personne ne voulait reconstruire le temple, Dieu a suscité son esprit sur Cyrus, un païen, un gentil, et c'est lui qui va reconstruire le temple. Quelle honte! Ça devait être les Juifs qui devraient brûler de passion pour le temple, mais non, ils s'en foutaient. Au contraire, si vous lisez le livre de Néhémie, la reconstruction de ce temple n'était pas de tout repos, car il y avait des conflits internes entre Juifs. Ils se jetaient des bâtons dans les roues. Or, ils appartenaient à une même équipe, comme on dit, pour rebâtir le temple. Vous savez, en phénoménologie des religions, on constate quelque chose de pareil dans la foi chrétienne par rapport aux autres religions. Les chrétiens ne sont pas plus respectueux de leur religion ou leurs pratiques religieuses par rapport aux animistes. Regardez les animistes, ceux qui, on va dire, qui vénèrent les faux dieux ou les esprits, ils suivent scrupuleusement à la lettre tous les consignes quand ils doivent se présenter devant leur Dieu. Mais les chrétiens, comme si de rien n'était, ils respectent rien. Ils font tout ce qu'ils veulent. Non, c'est pas grave, Dieu est bon. Dieu est miséricordieux, je peux faire tout ce que je veux. Vous voyez la phénoménologie. Comment se fait-il? D'où vient cette légèreté chez nous, chrétiens? Eux, ils ont une crainte concernant tous les interdits, par exemple. Tu ne dois pas faire ça. Tu dois boire ceci. Ensuite, tu dois enlever tes sandales. Ensuite, tu dois ramper. Parfois même, ils se considèrent comme des chiens. Par respect à leur Dieu. Et nous, par rapport à eux. En revanche, nous les chrétiens, nous sommes laxistes. Permissives. Et vous allez peut-être me dire que peut-être cela est dû à la notion de grâce et de pardon. Mais justement, chers amis, toute grâce, que ce soit une grâce présidentielle, une grâce royale, impériale, une grâce n'amoindrit en aucun cas l'autorité et le pouvoir de celui qui donne la grâce. Au contraire, s'il en est ainsi pour les êtres humains, il en est autant pour notre Seigneur. Et voici ce que Dieu avait dit. Dieu même, Yahvé lui-même, a réclamé cela dans un texte magnifique où il dit à travers la bouche de Malachie, chapitre 1, verset 6. Écoutez ce que Dieu dit, un Dieu qui se plaint. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père pour toi, où est l'honneur qui m'est dû? Et si je suis maître pour toi, où est la crainte qui m'est due? Toi qui m'appelles Père, où est le respect que tu me dois? Toi qui m'appelles Seigneur, Maître, où est la crainte que tu me dois? C'est juste sur les lèvres. Et en faisant la comparaison entre les prêtres et les juifs qui ne respectaient même pas leur foi face au dévouement du roi Cyrus, ce roi qui n'avait même pas Yahvé comme son Dieu, il avait un autre Dieu lui, mais qui va tout faire pour que le temple soit reconstruit. Une parole de Jésus me revient à l'esprit, celle du grand repas, la parabole du grand repas. Un homme important a donné un grand dîner, rappelez-vous, et qui invita beaucoup de personnes qui faisaient partie de son cercle, on va dire des personnes de son rang social, des personnes assez aisées à en juger le récit. Et tous les invités avaient des excuses pour ne pas y aller. Je suis trop occupé à gérer mes affaires qui semblent être plus importantes que ton invitation. Et ainsi de suite, tout le monde avait des excuses. Et par la suite, le grand maître, il dit, ben maintenant, alors si personne ne veut venir, il envoya ses serviteurs et il a dit, fais entrer tous les pauvres dans les coins de la rue de la ville. Fais entrer les estropiés, fais entrer les aveugles et les infirmes. Cette parabole n'est autre qu'une illustration de la réalité du royaume de Dieu. Jésus avait annoncé que ce sont les collecteurs d'impôts et les femmes adultères qui devanceront tout le monde dans le royaume des cieux. Et c'est vrai ce que Jésus a dit. Ceux que nous croyons être dehors vont faire partie du dedans. Et ceux qui se croient dedans pourraient, je mets au conditionnel, pourraient se retrouver dehors s'ils ne font pas attention. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir dans tout cela, c'est que le royaume de Dieu est accessible à tout le monde, et même pour ceux qui semblent être exclus. Dans le livre d'Ésaïe, il y a cette belle déclaration de l'Éternel qui dit, Ésaïe chapitre 25, versets 6 à 7, « Je me suis laissé rechercher par ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. » Ésaïe 65, plutôt verset 1. Et toujours dans ce même livre, Ésaïe 25, « Le Seigneur Yahvé des armées fera pour tous les peuples dans cette montagne un banquet de mets succulents, un banquet de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Et dans cette montagne, il anéantira le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. » C'est-à-dire que toutes les nations seront invitées à la table d'Abraham. Il n'y aura plus les fils des exclus. Il n'y aura plus le fils de l'esclave. Il n'y aura plus le fils de la personne qui était mise de côté. Tout le monde sera invité à la table. Un Dieu qui s'ouvre au monde. D'après Jean chapitre 3, verset 16, Dieu a tant aimé le monde. Ce Dieu qui a un cœur immense, prêt à accueillir tout le monde. Et c'est pour cela qu'il lance une dernière invitation au monde. Et il nous dit ce matin, « Venez à moi, vous tous, sans distinction. Vous tous, surtout vous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai le repos. » Il accepte d'être ton Dieu, le Dieu des affligés, le Dieu des estropiés, le Dieu des exclus.